Saïd Tagmaoui, de la haine à la volonté.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
C'est un coup du sort du Mektoub, un conte de fées plein de roses et d'épines. Voilà une petite frappe d'Aulnay-sous-Bois, devenu comédien international et vivant aujourd'hui à Los Angeles. Voilà un petit gars des banlieues, révélé il y a 25 ans dans La Haine, film culte, qui joue aux côtés de Kate Winslet, Mark Wahlberg ou George Clooney, qui peut jouer un sauveur d'humanité arabe dans un blockbuster américain, mais qui n'a toujours pas sa place au banquet du cinéma français. En lisant sa belle autobiographie « De la haine à Hollywood », on comprend que dans la vie de notre invité, au rayon monte-charge, il n'y a qu'un ascenseur émotionnel. Pour le reste et surtout pour le succès, il a toujours pris les escaliers. Voilà donc Saïd Tagmaoui, toujours géographiquement à l'ouest, entre le Maroc, la France et les États-Unis, qui le dit « Si je suis né en France, mon sang a la couleur et le parfum des montagnes marocaines ». Et si les dunes d'Afrique hantent mon imaginaire, c'est pour mieux me souvenir que j'ai grandi dans la patrie des droits de l'homme.
Who the fuck is this? Paging me at 5:46 in the morning. Crack of dawning, now I'm yawning. Wipe the cold out my eye. See who's this paging me and why? It's my nigga Pop from the barbershop. Told me he was in the gambling spot and heard the intricate plot. A niggas wanna stick me like flypaper, neighbor. Slow down, love, please chill, drop the paper. Remember them niggas from the hill up in Brownville that you rolled dice with? Smoke blood and got nice with? Yeah, my nigga Fame up in Prospect. Nah, them my niggas, nah, love wouldn't disrespect. I didn't say them, they schooled me to some niggas that you knew from back when you was clocking minor figures. Now they heard you blowing up like nitro, when they wanna stick the knife through your windpipe slow. So thank Fame for warning me, cause now I'm warning you. I got the Mac, nigga, tell me what you gonna do.
Damn, niggas wanna stick me for my paper. Damn, niggas wanna stick me for my paper. Damn, niggas wanna stick me for my paper. Damn, niggas wanna stick me for my paper.
They heard about the Rolexes and the Lexus with the Texas license plates out of state. They heard about the pounds you got down in Georgetown, and they heard you got half Virginia locked down. They even heard about the crib you bought your mom up Florida, the fifth corridor.
Call the coroner. It's gonna be a lot of slow singing and flower bringing if my burglar alarm starts ringing. What you think all the guns is for? All-purpose war, got the Rockwellers by the door. And I feed them gunpowder so they can devour the criminals trying to drop my decimals. Damn, niggas wanna stick me for my cream, and it ain't a dream, things ain't always what it seems. It's the ones that smoke blunts with ya, see your picture. Now they wanna grab their guns and come and get ya. Bet your biggie won't slip. I got the calico with the black talons loaded in the clip, so I can rip through the ligaments. Put the fuckers in the bad predicament where all the foul niggas went. Touch my cheddar, feel my Beretta. Fuck when I'ma hit you with your motherfuckers, better duck. I bring pain, blood stains on what remains of his jacket. He had a gun, he should've packed it, cocked it. Extra clips in my pocket so I can reload and explode on your asshole. I fuck around and get hardcore. C4 to your door, no beef no more, nigga. Feel the rough, scandalous. The more weed smoke I puff, the more dangerous. I don't give a fuck about you or your weak crew. What you gonna do when Big Papa come for you? I'm not running, nigga, I bust my gun and hold on, I hear somebody coming.
Bonjour, Saïd Tagmaoui.
Bonjour.
Et bonjour à Léo, c'est votre petit chien qui est sur vos genoux.
Ouais.
Un grand merci en sol majeur de nous accueillir avec l'un de vos très nombreux coups de cœur musicaux. Je sais que la musique, ça ne se partage pas avec n'importe qui, on n'est pas encore intime, on va essayer de faire connaissance. Donc pourquoi ce The Notorious Big avec Warning ?
Et pourquoi pas ? La musique, vous venez de le dire, est essentielle dans la vie. Et en fonction des humeurs et des âges, on n'écoute pas les mêmes musiques. Et Warning a été à un moment donné important dans ma vie. Et quand on arrive à cristalliser le temps, et en l'occurrence il y a des morceaux comme ça où on a l'impression qu'ils ont été écrits hier ou il y a 50 ans, et ça ne bouge pas. Et voilà pourquoi Warning, voilà pourquoi B.I.G. qui est pour moi, dans l'histoire du hip-hop, peut-être le plus grand de sa génération, toute génération confondue.
De la haine à Hollywood, donc qui vient de paraître au Cherche Midi. C'est écrit sous la direction de votre ami Laurent Sagalovitch, qu'on salue en sol majeur d'ailleurs.
Mm-hmm.
C'est une sacrée confession, c'est un petit peu comme une opération à cœur ouvert. Vous dites tout, vous dites beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vous a décidé à faire cette autobiographie ?
Laurent Sagalovitch, qui est un ami et un frère et aussi un psychanalyste.
Mm-hmm. Mais pourquoi vous avez dit oui ?
J'ai dit oui parce que c'était le moment de le faire. Il y a des virages dans la vie qu'on rate pas. Et je me sentais prêt. Et puis le confinement aussi a fait que c'était au bon moment.
M.
M comme... Mektoub.
Qu'est-ce que vous pensez de ce mot, Mektoub, Saïd ?
C'est l'ombre de Dieu. Le destin, c'est un peu l'ombre de Dieu. Parce que Mektoub, ça veut dire destin en français. Et destiny en anglais. Ça dépend des gens s'ils croient ou pas en fait en Dieu. Moi, je crois que c'est toi qui écris ton destin en fait. C'est comment tu provoques les choses et comment tu fais pour les embrasser.
En tout cas, votre parcours contredit, je trouve, ce mot. Vous êtes né en 72 à Villepinte. Vous grandissez à la cité Jupiter d'Aulnay-sur-Bois en banlieue, je précise hein, pour nos auditeurs du monde entier. Et vous grandissez dans un immeuble construit par votre père.
Mmh. Ben oui, comme tous les immigrés de l'époque, ils n'étaient pas très très qualifiés, quoi. C'est la main d'œuvre, non ? Et mon père était maçon pour un grand groupe de construction française. Et c'est vrai, ouais, c'est l'anecdote du truc, c'est qu'il a construit la cité dans laquelle j'allais grandir.
Lorsqu'on vous découvre dans le film La Haine, on a l'impression à l'époque de voir un petit peu de votre vie. On vous voit évoluer dans la rue en connaissant un peu le mode d'emploi de cette rue. Mais en fait, le cœur de Saïd, dans cette autobiographie, il parle de l'envers du décor. Et vous avez cette phrase qui peut étonner, Saïd Tagmaoui. Vous dites « J'ai passé mon enfance et mon adolescence à avoir peur.
Mmh. » Oui, comme je pense une grande partie des compatriotes. Ben peur de ne pas savoir où on est, qui on est, où on va. Et donc moi, je me rappelle encore de l'époque des ratonnades, des boîtes de nuit où tu n'avais pas accès, enfin...
Alors, vous avez peur dehors, mais vous avez aussi peur dedans, parce que vous êtes un peu un ovni pour vos parents. Et votre mère pense même que vous êtes hanté par le diable.
Mmh, mmh.
Pourquoi ?
Parce qu'ils n'ont pas les réponses aux questions qui se posent. Eux qui viennent d'une culture où, justement, tout est oral et tout est lié à la religion, etc. Eh bien, ça ne va pas, donc il doit y avoir une explication religieuse à cela. Rationnel, et donc automatiquement, il y a le bon Dieu, et puis il y a le diable, il y a le paradis, et puis il y a l'enfer.
Oui, vous dites les choses, enfin vous ne les dites pas, parce que là vous êtes très pudique, mais dans cette autobiographie, vous dites clairement que vous avez été régulièrement battu, comme on peut le faire dans une famille quand on veut que son enfant marche droit, parce qu'on ne comprend pas pourquoi il va de travers.
Bah, je crois que je prends le temps d'expliquer justement dans le livre pourquoi, comment, parce que c'est d'être battu, ça ne veut pas dire grand-chose en fait, c'est surtout la raison et dans quel contexte en fait. C'est ça qui fait sens. Mais effectivement, c'était une adolescence difficile où nos parents n'avaient pas automatiquement les armes intellectuelles, puisque eux, ils reproduisent ce qu'ils ont vécu. Mais reproduire ça en Europe, ça décuple l'effet.
Vous avez peur alors que la rue devient très rapidement votre terrain de jeu et que même ça se finit souvent au commissariat d'à côté où, vous le dites avec sourire, vous avez quasiment votre ronde serviette. Mais vous rajoutez, et sans ironie, que vous avez beaucoup de respect pour la police.
Parce que tu grandis dans cet univers et donc automatiquement tu dois en respecter les codes.
Pourtant vous avez connu les contrôles d'identité réguliers, vous avez même des records par jour, une fois que vous vous faites contrôler 11 fois je crois.
Mais ça je pense que c'est tout adolescent dans le contexte de l'époque, il y a un côté un peu les 400 coups. Donc en fait c'est plus ça quoi, plus que de connaître le commissariat ou d'être dans un truc, c'est juste que t'évolues dans un milieu social défavorisé, les lois de survie ne sont pas les mêmes et donc t'as des modèles qui sont pas les plus lumineux, mais voilà, c'est ton monde, c'est ta vie et t'y crois et donc tu grandis là-dedans quoi, et tu t'essaies de t'accrocher un peu comme un singe dans la jungle, non, qui attrape une liane et qui la lâche pas tant qu'il n'a pas attrapé une autre.
Alors en tout cas, entre la rue qui devient une sorte d'école pour vous et puis les institutions qui ne vous accordent absolument aucun crédit, vous cherchez votre place, vous le racontez bien, et vous la trouvez un peu à l'école de Paris des métiers de la table. Et là, ça vous sort à la fois de la banlieue et de la dépendance de la cité.
Et donc moi je découvre la vie, etc. Je découvre un métier qui sont les métiers de la table.
Que vous aimez.
Que je trouve fascinant, parce que c'est un relais sur l'éducation, puisque tu apprends un peu tous les trucs de service, mais de très haut vol, quoi. Donc tu renoues avec la noblesse. Parce que l'histoire du service, en fait, c'est aussi, ça définit un pays, une continuité culturelle. Alors il y a trois grands services, non, il y a la russe, l'anglaise et le française. Et chaque service, c'est la continuité ou la résulte de siècles de bon goût, de prince, de roi, de seigneur, etc. Donc ça t'amène dans cette articulation humaine qui est essentielle.
Et c'est à travers la cuisine, la gastronomie française, que vous découvrez la grandeur de la culture française ? Est-ce que c'est à ce moment-là que ça se met en place un peu ?
Non, je crois que c'est un tout. C'est pas à travers la cuisine, mais la cuisine vient s'emboîter comme un kit, non ? Avec plein d'autres choses, comme la littérature, comme la peinture, comme l'architecture, comme tout ça, quoi.
Et puis, il y a une autre école, parce que vous allez devenir le canonnier Tagmaoui, Troufion de seconde classe, qu'on vous envoie en Allemagne, à qui on offre tous les mois 400 francs, ce qui est une somme royale à l'époque, parce que vous avez connu la faim, Saïd Tagmaoui. Et il se trouve que le service militaire va être une bonne école pour vous.
Oui, l'armée, en général, à l'époque, on disait toujours qu'il fallait aller à l'armée pour devenir un homme.
Appartenir à la nation française, c'est ça que vous découvrez?
Non,
aussi
ça n'avait rien à voir avec la nation française, parce que tu passes une
année... C'est ce que vous écrivez, en tout cas.
Oui, c'est ce que tu as envie, au début, c'est ce que tu penses arriver. Tu vois, après, dans la pratique et la théorie, c'est deux choses différentes. Mais vous savez, sur la pièce de Monet, c'est écrit « Liberté, égalité, fraternité ». La traduction sur le terrain, c'est toujours un peu différent. Mais l'armée, ça te permet de renouer avec les valeurs françaises, de savoir qui tu es, de continuer ton élan d'intégration, puisqu'en fait, ça n'existe pas l'intégration, c'est plus un truc d'acceptation. Puisque là, tu payes tes loyers, tu payes tes impôts, etc. Donc tu es intégré, en fait. C'est surtout si on t'accepte, quoi. C'est plus subtil et plus pervers, même.
On recherche des rappeurs 18-24 ans. Demain, on fait un petit casting, mais c'est pour une pub, c'est une journée de tournage. Alors bon, quand même, comme c'est une pub, il y a un créneau très précis. Ils ne veulent pas de beurre ou de noir.
Trop de faits racistes ont marqué la vie de l'homme. Et l'économie de nos jours perpétue une vision qui n'est pas bonne. Des a priori sur son prochain par un conditionnement. L'unité des hommes serait dangereux pour certains gouvernements. Les problèmes entre noir et blanc, à certains profitent toujours. Le underground doit s'unir pour la guerre et l'amour. Toujours en action contre les nations. C'est un voleur ou un dealer à pauvres gens, stéréotypé jusqu'à la moelle. Ce genre de bâtards devant nous finissent à poil. Alliance d'idées, alliance de culture. Le métissage est notre force et force le futur. Il est temps d'ouvrir les yeux à l'humanité avant qu'elle meure. Nous sommes d'abord des êtres humains avant d'être une couleur. Le racisme, le sujet est tabou. Les ambiguïtés idéologiques que l'on retrouve un peu partout. La défense de l'identité culturelle est mise en avant. Sous quelle forme juge-t-on les gens ?
Et oui, parce que de fil en aiguille et en graffiti, vous vous passionnez pour le hip-hop et plus encore. Sur les murs de la capitale, on voit un drôle de nom tagué, celui, comment on prononce ça, d'Iron ?
Erwan.
Erwan.
Oui, c'est une période de ma vie. C'est passé par plein de formes, en fait. La danse, la boxe, le graffiti, le cinéma, la peinture, enfin, jusqu'à que tu trouves le véhicule qui te correspond le mieux pour parler de tes problèmes ou de partager ce que tu as envie de partager.
En tout cas, en devenant copain du leader du groupe Assassin qu'on écoutait à l'instant, vous allez rentrer très vite, je résume bien sûr, hein, dans la clique Kassovitz et Vincent Cassel, avec au bout l'aventure que l'on sait, celle de la haine. Ce film va être une sorte de branle-bas de combat au moment de sa sortie. Les micros et les télés sont là. Vous vous retrouvez un jour sur le plateau de Bouillon de Culture, en face de Bernard Pivot, à répondre sur le fait que ce film, qui était présenté à l'époque comme un film sur les violences policières, ne donne ni la parole, ni aux filles, ni à l'amour.
Il n'y a pas d'amour dans le film, on ne parle pas de tout ça. C'est qu'on est parti sur la base dans le travail, dans le sens où on essaie de faire une espèce de mixing pot comme ça, de toutes les émotions qu'il peut y avoir là-bas. Et c'est que les gens, ils sont perdus. Les personnages en banlieue, les gens sont perdus. Ils manquent d'amour terriblement. C'est des gens complètement... c'est une espèce d'herbe qui pousse sauvagement comme ça. Il n'y a pas d'amour en banlieue. Bien sûr qu'il n'y a pas d'amour, c'est une réalité. Et puis c'est comme ça et c'est tout.
C'est votre voix de l'époque.
Ouais, j'ai cru reconnaître ma petite voix fluette.
Oui, mais qui dit des choses, vous êtes très lucide.
C'est assez fou quoi, quand je réécoute ça.
Mais à ce moment-là, sur ce plateau, dans ce moment d'interview, vous étiez un peu, c'est ce que vous dites en tout cas, vous étiez paumé un peu, à côté de Kassovitz. Hein.
Oui, oui, ben, en général, t'es perdu parce que t'étais projeté comme ça. Dans un truc de cinéma, il n'y a rien qui te prépare à être exposé.
La notoriété est compliquée, hein, même.
C'est un cancer. Et c'est très très dangereux, il faut une véritable extra-normalité pour dealer avec tout ça.
Alors vous dites « La haine est la pire et la meilleure des choses qui me soient jamais arrivées. Ce film et son succès m'ont tellement abîmé que parfois je souhaiterais ne jamais l'avoir tourné. »
Pardon, je pense que c'est pareil pour tous les gens qui ont eu un démarrage rapide comme ça, de nulle part, et que ça s'est passé en une nuit, quoi. Tout ce que tu sais, c'est que t'aimes ton métier et que t'as envie de le faire et que ça va pas être une mince affaire parce que voilà, les gens sont très égoïstes, chacun tire la couverture de son côté. Moi, je pensais faire partie d'une famille, d'un clan. Et en fait, non, quoi. Il y a juste des gens un peu hypocrites qui sont là, qui se servent de toi parce qu'ils ont besoin de cette authenticité-là à ce moment-là. Et puis après, eux, ils continuent leur carrière et toi, tu n'es pas un artiste. En fait, t'étais juste une station de métro, quoi. On s'arrête sur le chemin, quoi. Comme une serpillière. Et en fait, tu t'aperçois que en fait, c'est toi l'âme de tout ça et que en fait, non, c'est eux les serpillières et que ça prend un peu de temps, le temps de renverser le truc. Et c'était ça, la violence. La violence, elle était là. Ensuite, quand on dit que Cassel a pris toute la lumière, non, je pense que le film, il est universel, il est international, donc ça permet de sortir...
Pas dans le film, hein, mais je parle des Césars, de la cérémonie des Césars.
Mais ça, c'était déjà prévu, ça. Mmh. C'était déjà acté depuis le début, puisque pour le même film, il va recevoir 2 nominations. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça la définition du privilège blanc.
Donc, meilleur espoir masculin et meilleur acteur.
Alors, tout le monde parle de ce fameux privilège blanc, ça n'existe pas, etc. Peut-être en voilà une définition extraordinaire. Parce que pour le même travail, alors qu'on porte à part égale le truc, etc. Et puis même moi un peu plus, puisque j'écris tout ça et j'apporte cette authenticité, etc. Il va recevoir 2 nominations, alors que Hubert et moi ne reçoit qu'une seule, alors que c'est le même boulot, quoi. Alors qu'on part en plus, nous, avec 50 sacs sur le dos. Mmh. Mais on nous demande de courir à la même vitesse aux Jeux Olympiques du 100 mètres. Tu te dis, c'est pas très fair-play.
Trahison et mépris. Hein.
C'est même pas trahison, c'est le système qui fait ça, en fait. Mais c'est juste que peut-être un Vincent Cassel, il aurait pu dire, attends, c'est pas fair-play. Et là, justement, intervenir humainement et de se dire, tiens, voilà, là, je peux peut-être faire quelque chose. Non.
En tout cas, de l'eau a coulé sous les ponts, vous l'avez dit, Saïd Taghmaoui. Et j'aimerais bien que pour En Sol Majeur, vous nous ouvriez un tout petit pan de votre cinémathèque. Mmh.
Dimmi un po', t'avrebbe fregato una bicicletta?
Sì, m'ha fregato la bicicletta.
Prima del baccaglia tanto, sei sicuro di quello che dici?
Ma come si so sicuro?
E dove te l'avrebbe fregata?
Vicino a Florida.
Se sei tanto sicuro, perché non va in questura?
Che aspetti?
Lo abita qua?
E va in questura,
smuovete.
E andiamo a perdere, un po' cammino.
E va, c'è che aspetti? Ancora sta qua?
Andiamo, muoviti.
Va in questura. Io sto qua, c'è niente da nascondere.
No, tu non te ne vai, mica so scemo. Hai capito che non te ne vai?
E piantalo, non mi tocca, ma chi t'ha mai visto a te? Levatemelo davanti.
Alfredo! Alfredo!
E, come, être o ne pas être?
Magnifique votre expression en écoutant cet extrait du voleur de bicyclette, Saïd Taghmaoui.
Ah, il y a des films comme ça qui te remettent en place tout de suite, quoi. pas de fioritures et ça va à l'essentiel. Et c'est ce que j'appelle quand le temps s'arrête, quand tout est cristallisé, quand il y a une fenêtre.
C'est votre film préféré, hein ?
C'est un de mes films préférés.
Un de vos films préférés.
Parce qu'il y a des films comme ça qui n'ont plus besoin d'explications ni quoi que ce soit. Et puis le temps est le meilleur de tous les témoins. Et tu t'aperçois que plus le temps passe et plus il se bonifie.
Et d'ailleurs, pour dire que les Italiens, parce que vous avez joué en Italie, pour eux, vous êtes une sorte d'Anthony Quinn et non pas un arabe qui a du bol. En tout cas, pour dire qu'être comédien, ça n'allait pas de soi dans votre tête, justement, après l'expérience de la haine. Pas de boulot, vraiment. Une grande déception par rapport à ça. Et puis, des rencontres malgré tout. La personne qui vous amène à sortir en vous le comédien que vous êtes, c'est l'auteur-metteur en scène Xavier Duringer. Il vous engage pour une pièce et ça se passe moyennement. Vous êtes, dites-vous, bloqué par tous vos complexes. Mmh. Vous parlez beaucoup de complexes. Hein. Je sais pas ce que.
On est très mal tous, je pense que.
Oui, mais on parle de vous, là.
Oui, mais dans une vie, tout le monde a une forme de complexe et tu les trimbales et c'est comment tu vas dealer avec, en fait.
Qu'est-ce qui se passe avec Duringer qui se fâche devant vos blocages ?
Alors, c'était. Il faut remettre encore les choses dans le contexte. C'était une période où j'avais eu donc la notoriété, il y avait des affiches partout, il y avait le succès du film incroyable. Et moi, je viens d'une famille pauvre, donc j'étais dans une réalité sociale différente que Vincent qui rentrait, lui, à Montmartre, chez son papa, etc. Parce qu'on parle de trois personnes. Dans la haine, il y avait Hubert Koundé, Vincent Cassel et moi-même. Mmh. Hubert, il vient d'une famille un peu diplomate, africaine, très articulée. Et Vincent, c'est le fils de Jean-Pierre Cassel. Donc son parrain, c'était Serge Gainsbourg. Il a été sur les plateaux.
Vous venez de la Lune, vous ?
Voilà, moi j'arrive de la Lune. Et donc il faut venir de la Lune, mais faire comme si on était sur la Terre et comme si c'était normal. Donc j'avais pas les armes pour me préparer. Quoi.
Revenons, Saïd, sur ce moment avec Xavier Duringer qui va vous, si j'ose dire, vous décapsuler. De quelle manière ?
Il y a deux écoles. Il y a l'école du cinéma et l'école du théâtre. Puisque lui, il est auteur, etc. Mais il a une troupe avec qui il travaille. Et il me dit, il y a cette pièce, il y a trois personnages, dont un qui ne parle pas, donc vous n'êtes que deux à parler, donc c'est 600 pages de texte. Et je ne sais plus par quel miracle, je dis oui, et je me retrouve à faire ce truc-là, et qui est la première véritable expérience artistique, professionnelle, parce que la haine, ou les films que je faisais avant, c'est du cinéma, c'est pas la même respiration, c'est pas la même approche artistique sur scène, etc. Là, le théâtre, c'est d'un trait, tu montes et tu fais tout d'un trait. Et c'est là que j'allais devenir acteur. Mmh. Il savait que j'avais quelque chose, mais qui n'était pas encore sorti. Et puis, à travers les répétitions, on s'est confrontés. Et puis, voilà, il s'est passé des choses qui sont dans le livre.
Il vous dit, je suis sûr que tu peux jouer ça, que je veux entendre ton cri.
Voilà. Et tu hurles et il te fait sortir ce truc. Et il te met dans cette position que tout bon directeur d'acteur, à mon humble avis, ou peu importe dans les métiers, même, je pense, un violoniste, un bon professeur, il te donne la clé qui fait que tu te trouves et que tu trouves ta voix. L'image que j'en ai, c'est cette métaphore que j'ai, qui me revenait souvent en rêve, c'est une montagne et t'as glissé et t'es tombé et tu t'es rattrapé sur une branche. Mais il y a 1 kilomètre de dénivelé en bas et la branche se détache au fur et à mesure. Et tu te dis, mon Dieu, je vais m'écraser. Mais ce qui se passe, c'est que sur cette branche, il y a une ruche d'abeilles avec du miel. Et le miel se dégoule dans ta bouche un tout petit peu de temps en temps pendant que la truc crache. Donc tu es en train de vivre un truc horrible qui va presque annoncer ta mort. Et de temps en temps, tu as un peu de gouttes de miel qui tombent sur ta bouche. Donc c'est une espèce de délice avant la mort. Quoi. Donc,
on n'est pas loin du mythe de Sisyphe, en tout cas. Mais la Voie lactée, parce que c'est même pas la bonne étoile, hein, comme c'est écrit. C'est la Voie lactée qui est en marche pour vous. Les Américains vont repérer votre talent, notamment un certain Lee Daniels, qui est un grand manager. Et on voit apparaître votre nom à l'affiche de très grands films. On va donner 3 exemples.
What is the problem with Michael Jackson? You understand my question?
Les Rois du désert, David O. Russell.
No, I'm not sure I do. Michael Jackson is pop king of sick fucking country.
It's bullshit. He did it to himself.
You are the blind bullshit, mommy man. It is so obvious. A black man made the skin white and the hair straight, and you know why?
No.
You sick fucking country make the black man hate himself just like you hate the Arab and the children you bomb over here.
Tracking signal is good. Don't let go of that truck, Snake Eyes.
G.I. Joe, Stephen Sommers.
Do you have to stop them?
Yeah, we're working on it.
I mean right now. They're going to detonate one of the warheads
of the Eiffel Tower.
Colin is 180 centimeters tall. His shadow is 46 centimeters.
This image has decayed 6%, which means it's 51 hours and 17 minutes old.
Et voilà.
Wonder Woman de Patty Jenkins.
For all his talk of shooting, he cannot shoot.
Well, not everyone gets to be what they want to be all the time. Me, I am an actor. I love acting. I didn't want to be a soldier. But I'm the wrong color. Everyone is fighting their own battles, Diana. Just as you are fighting yours.
Un petit échantillon de votre très belle filmographie, Saïd Taghmaoui, avec juste cette phrase qu'on vient d'entendre, extraite de Wonder Woman. Je suis un acteur, mais je n'ai pas la bonne couleur.
C'est drôle, c'est une belle métaphore.
La fiction qui rejoint la réalité.
Ouais, surtout sur un film comme ça, justement onirique, complet, de super-héros, où on a grandi avec Wonder Woman.
Incroyable.
Et j'aurais adoré faire aussi... Aramis, non, ou D'Artagnan, ou je ne sais quoi, mais l'imagination des auteurs français est très...
Wait and see. Mais alors, on vous entend jouer en anglais, ce qui pour les Français est toujours encore une surprise. Est-ce que c'est devenu une seconde nature pour vous de jouer en anglais ?
Oui, j'en parlais avec... je suis ami avec quelques vedettes américaines de cinéma, et en l'occurrence Mark Wahlberg. Mm-hmm. Et chez lui, souvent le soir, on reçoit des...
On l'embrasse.
On reçoit des gens, et il habite en face de chez Denzel Washington. Et on parlait, et moi je disais à Denzel à quel point j'étais en admiration devant lui. Et il me regardait comme ça... Et il me disait de ne pas me sous-estimer parce qu'il pensait que j'étais aussi bon que lui. Et je lui dis, mais tu te fous. Alors, ça, c'est toujours pour te faire plaisir. T'es le petit français, t'es l'invité, etc. Il a eu un argument qui vaut son pesant de cacahuètes. Il m'a dit, Saïd, tu sais, il y a un truc que tu oublies, c'est que toi, tu es capable de faire des films en anglais, en arabe, en français, en italien, en espagnol. Aussi bon que je suis, moi, Denzel Washington, je peux faire mes films qu'en anglais.
Merci, Denzel.
Et tu es déjà ici avec nous dans la maison, et tu fais déjà d'autres films. Est-ce que moi, j'aurais été capable de faire les mêmes en France ? Donc, c'était un axe un peu différent qui, effectivement, à force de travail, sans voir l'abnégation, tu t'aperçois que ce qu'on ne te donne pas comme crédit ici, on te le donne là-bas, et ça devient une valeur ajoutée.
Mais alors, quelle est la vraie différence ? Parce que dans ces films, bon, pas tous les personnages, mais certains ont évidemment des noms arabes, hein, que ce soit Captain Saïd dans Les Rois du Désert ou Samir dans Wonder Woman. En revanche, qu'est-ce que vous diriez de la partition ? Est-ce qu'elle vous amène ailleurs que dans ce qu'on va considérer comme étant un rôle d'arabe ?
Peu importe l'envergure du rôle ou la taille du rôle. Ce qui est important, c'est ce que tu défends. Que ce soit un méchant ou un gentil, tout est noble à partir du moment que tu le défends noblement. Donc eux, ils vont te proposer leurs clichés, leurs stéréotypes. Mais c'est à toi, à la fin, qui est responsable de dire ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas.
Et dans quel film vous avez pu faire bifurquer le préjugé d'une autre manière ?
Dans tous les films, en fait. J'essaye de les faire bifurquer intelligemment avec ce qu'on me donne. Dans G.I. Joe, par exemple, il devait être de grec ou de crète ou je sais plus quoi. Il est marocain. Et du coup, ça fait plaisir à plein de gens d'origine arabe, maghrébine, et ils voient un héros qui leur ressemble, et il dit dans le film, moi je viens du Maroc, mais il est avec l'équipe qui va sauver l'humanité, donc voilà, c'est tout simplement dans l'inconscient des gens.
C'est ça la grande nuance, c'est un sauveur de l'humanité qui est arabe.
Alors maintenant, même si on fait des rôles durs de terroristes, ou des rôles négatifs, ou... c'est pas le problème, c'est encore une fois le cliché, le stéréotype. On reproche pas à Robert De Niro de jouer le psychopathe, donc ce que je veux te dire, c'est qu'on peut pas le reprocher à lui. Mais on va nous le reprocher à nous. Mais après, il faut voir ce qu'on en fait, en fait. Moi, ça ne me dérange pas, encore une fois, de faire même 10 rôles de terroristes tant qu'ils ne sont pas stéréotypés ou clichés.
Est-ce que c'est vrai que pour vous, à vos yeux, il y a une seule déesse ? C'est la caméra à laquelle vous parlez régulièrement.
Oui. En fait, la caméra, elle est vivante, quoi. Et le plateau est organique. Donc, si tu crois un peu au mysticisme des choses, effectivement, tu as des caméras qui t'apprécient plus que d'autres. Donc, c'est mieux de lui présenter tes respects et de lui montrer que... En fait, tu fais allégeance, en fait. C'est faire allégeance à tout cela. Et pour qu'elle te mette dans des conditions plutôt cool. Et puis après, c'est à toi de faire la magie. C'est pas avec la caméra. Même si la caméra t'aime beaucoup et t'accepte, il va falloir que tu lui donnes quelque chose.
Donc, vous avez un rapport mystique à la caméra.
C'est pas mystique. Alors, pour certaines personnes de l'extérieur, quand ils te voient parler à une caméra, ils se disent « il est fou ». Moi, c'est mon partenaire. C'est...
Mystique, ça veut pas dire fou. Hein.
Non, mais je veux dire mystique ou spirituellement. Non, pour moi, c'est même pas ça. c'est un devoir.
Bah, je vous souhaite une scène où on voit Saïd Tegmaoui en tête à tête avec la caméra. Il y aura un dialogue à imaginer.
Bah, il faut imaginer.
Oui. Est-ce que vous
c'est
considérez...
très intime en fait. Ça dépend de la matinée, ça dépend de la scène que tu as à jouer. Quand tu vas voir la caméra, c'est peut-être parce que justement tu as des petits problèmes et tu as envie de lui dire qu'on va avoir une forme d'intimité un peu plus intime que la normale.
Vous considérez que vous existez aujourd'hui aux yeux du cinéma américain, Saïd Tegmaoui?
Je considère que j'existe à mes yeux. Et c'est aux yeux de ma famille. Et
ça,
je suis
une
sorti
formule,
de ma condition.
Mais c'est pas que ça. Parce que vous êtes membre de l'Académie des Oscars, hein, je précise quand même. Ce qui est
alors,
pas rien.
Ça dépend ce que vous appelez par exister aux yeux du cinéma américain. Vous savez comment on existe aux yeux du cinéma américain? C'est en étant payé confortablement.
Alors, est-ce que c'est le cas?
Bah, plus que le cas.
Bon, bah, alors la réponse.
Mais c'est pas ça qui te fait exister. C'est aussi les rôles, la capacité à produire, à agencer des projets, à les mettre en œuvre, à
alors
les faire
est-ce que
démarrer.
Vous êtes comblé par le cinéma, par les propositions qu'on vous fait?
On va dire que je suis plutôt satisfait de mon parcours.
Mais peut mieux faire.
Mais peut toujours mieux faire.
Une belle place en tout cas dans ce cinéma américain, mais...
Mais en fait, cinéma américain, je vous coupe, mais c'est cinéma international du coup,
oui.
Puisque quand tu deviens une vedette, entre guillemets, aux États-Unis, tu deviens une vedette dans le monde.
Mais on a l'impression que ça ne vous suffit pas après avoir joué, je l'ai dit, avec des Kate Winslet, Mark Wahlberg ou George Clooney. De l'autre côté des océans, vous vous sentez répudié par la France. C'est votre terme.
Non, pas répudié, c'est juste qu'on a dépassé la limite, quoi. C'est-à-dire que c'est comme quand tu aimais quelqu'un, une femme, et elle t'aime pas. Et toi, t'es là à ce moment-là et t'as envie de l'aimer et tu lui montres que t'es formidable, etc. Et puis après, le temps passe. Et le temps passe tellement que quand tu revois cette personne, t'as plus trop grand-chose à lui dire, quoi. C'est peut-être un peu dans cette situation que je me retrouve aujourd'hui. C'est pas, il n'y a pas de réputation, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de truc, c'est juste que j'ai grandi et que je m'aperçois que Marianne, j'ai plus trop grand-chose à lui dire aujourd'hui, quoi. Alors après, peut-être ça changera encore. Mais j'ai su combler artistiquement, je suis comblé financièrement, je suis comblé humainement. J'ai construit autre chose avec d'autres gens et j'en suis plutôt très très content.
Retour sur une autre de vos terres,
et en plus,
Saïd Tegmaoui.
Et en plus, excusez-moi, je vous coupe encore une deuxième fois, puisque tout est une histoire d'artistique. Je pense que, de par la constitution du cinéma américain, de sa tradition, de comment il est fait, il y a des trucs que j'aurais jamais pu faire même ici si j'avais fonctionné ici. Comme G.I. Joe, Wonder Woman, et on peut continuer comme ça pendant des heures. Parce que c'est pas leur tradition ici. Et moi, en tant que spectateur, en tant qu'acteur, en tant que potentiel cinéphile, c'est des trucs que j'ai envie de faire aussi.
Ouais, film d'action.
Un des films qui m'a fait le plus délirer quand j'étais plus jeune, c'était La Planète des Singes. J'adorerais jouer dans un film à La Planète des Singes. Donc j'ai aussi l'enfant en moi qui s'exprime et qui dit, ok, il y a l'introspection personnelle, mais il y a aussi le Saïd spectateur qui dit, putain, waouh.
Vous êtes un enfant du cinéma américain, en fait.
J'aimerais bien faire ce genre de film, quand même. Et ça, malheureusement, il n'y a que qui savent les faire aussi bien.
À bon entendeur. Retour sur une autre de vos terres, le Maroc, que vous allez découvrir un peu tard, hein, dans votre vie, seulement à 14 ans, et que dans votre autobiographie, vous décrivez comme ça.
Là-haut, tout est désertique. Il y a des cactus, des scorpions, un vrai décor de Far West. Je n'en crois pas mes yeux. On est si loin de la civilisation et de son confort. On boit l'eau du puits, on mange ce que la nature a à offrir, des dattes comme des pigeons. On dort sur les toits, les yeux dans les étoiles. Une fois, je me réveille à 4h du matin pour accompagner mon grand-père au marché à 15 km de chez lui. Il m'installe dans une des deux sacoches qui pendent sur le dos du mulet. C'est la nuit noire. Le mulet prend son temps et je finis par m'endormir, bercé par sa patte qui vient frapper contre la sacoche comme une caresse. Je dors tellement bien qu'une fois arrivé, mon grand-père n'ose pas me réveiller et me laisse dormir. Quand je finis par ouvrir les yeux, je découvre un spectacle que je n'oublierai jamais. Des mulets, des dizaines de mulets qui me fixent d'un drôle d'air en se demandant ce que je fais là. Et des ânes, des chèvres, des chameaux aussi. Un parking d'animaux. J'ai atterri dans un parking d'animaux.
À vous lire, Saïd Tegmaoui, le Maroc, même pauvre, même rustique, a eu quelque chose de magique pour vous, arrivant de votre banlieue si dure.
Surtout le Maroc pauvre, surtout le Maroc rustique.
Pourquoi ?
Parce que c'est celui qui m'intéresse. C'est celui du partage, c'est celui de la simplicité, c'est celui de l'humilité. Tout le Maroc un peu bourgeois, etc., c'est pas trop mon truc, quoi. là-bas avec un petit bout de pain, avec un peu d'huile. Il y a mieux que de l'argent, quoi. Ils ont de la culture et ils ont des traditions. Et effectivement, c'est un endroit important de par mes origines et comment j'y suis retourné, et comment ça intervient dans ma vie, en fait.
Ça vous équilibre, cette présence, même à distance ?
Ben, je reviens de 3 mois de Maroc, là, donc j'ai eu du mal à rentrer, d'ailleurs. Oui, parce que je me suis mis dans la position de faire de ma vie ce que j'en ai rêvé, quoi, c'est-à-dire la nature, les animaux, la terre, les légumes, l'huile d'olive, mes chevaux, mes chiens, enfin... Voilà, c'est dans tout ça que j'ai mon équilibre.
Alors ce Maroc, vous allez le retrouver derrière la caméra de Nabil Ayouch. Ça, c'est dans les années 2000, avec un rôle magnifique où vous avez la tête rasée, balafrée. Vous jouez un tyran qui règne sur les enfants des rues.
Vas-y, m'chi. Fais. T'as qu'à l'heure. Dis, là, dis. Voilà. T'as droit de dépanner ou bien bien. يكون في الجزيرة ديالي نتفكرك بالليل ملي تكون مسرح عليك النجوم نكون حتى انا كنشوف فيها بحال دوك الباطيمة التوميات باش كنشوفوا حاجة واحدة التوميات كبار حتى احنا
Extrait en sol majeur d'Alizawa, Prince de la rue. Est-ce que Léo va bien, votre petit chien ?
Il va trop bien.
Il est sur vos genoux. Je veux que tout se passe bien.
Il me manque un petit peu et là j'ai été récupéré, il est sur mes genoux.
Je veux bien que vous restiez malgré tout dans le micro. Hein.
Oui, ben, j'essaye.
Saïd, ce tournage d'Alizawa, Prince de la rue a été, vous le racontez, un challenge pour vous avec ces enfants qui n'étaient pas des acteurs.
Ben, tout le sujet du film, le thème. Il faut remettre dans le contexte, à l'époque au Maroc, il n'y avait pas ce genre de film. On était vraiment des précurseurs. L'honnêteté, la poésie, les enfants, les vrais enfants des rues, le lieu de tournage.
Qui vous ont testé un jour.
Ouais, mais pas qu'un jour, mais disons que tout était magique, quoi. Et c'est vrai que le film est aussi très bien réussi, quoi. Et ils ont réussi à sensibiliser le gouvernement et les autorités marocaines autour de sujets très graves qui sont les enfants des rues. Il y en a un paquet, et puis ils sniffent de la colle, et puis il y a un côté un peu comme dans le film brésilien, la Cité de Dieu. Il y a cette dimension-là, mais un peu moins violente, puisqu'il n'y a pas d'armes. Mais c'est aussi violent parce qu'il y a d'autres armes. Et c'est tragique, humainement. Tragique, c'est des tragédies grecques. Et ça a amené une grande sensibilité de la part de Sa Majesté le Roi aussi. Et du coup, le problème des enfants des rues a été mis au centre des débats et des choses formidables ont découlé.
Il y a eu des orphelinats, voilà. Etc.
Et c'est un film qui a gagné le prix du Vatican par le pape, ouais. Etc. Donc il y a eu tout un truc comme ça où d'un coup, faire des films, ça devenait plus que faire des films. Et ça me parle.
Et ce qui est fou, c'est que vous allez revenir dans ce Maroc quelques années après, jouer Hidalgo. Là, vous êtes en prince d'Arabie et vous êtes le fils d'un certain Omar Sharif. Qu'est-ce que ça représentait pour vous ? Non pas de jouer aux côtés d'Omar Sharif, il faut vous lire, vous racontez bien le personnage. Mais qu'est-ce que ça représentait pour vous de jouer cet Orient-là ? Qui est un Orient un peu fantasmé, justement, parce que là, on est dans les princes d'Arabie.
Oui, alors fantasmé, et puis le fantasme, il y a toujours un peu de réalité. Ah, c'est un rêve encore éveillé de faire un film avec un de mes acteurs favoris, en tout cas celui de ma maman. Donc il y avait très peu d'acteurs de niveau international, pour ne pas dire aucun, qui avait un nom à consonance arabe aussi forte, qui voulait dire quelque chose chez nous. Ma mère, elle a toujours été amoureuse de Omar Sharif et pas de George Clooney.
Fierté pour maman, alors, de voir son fiston Saïd jouer avec nous, même pas ?
Oui, ou fierté, mais surtout continuation, et puis surtout, ouais, de te dire, ouais, c'est génial. Et le fait qu'il joue mon papa, moi, le prince, c'était juste un rêve, quoi. Tu te dis, mais c'est pas possible, pincez-moi, quoi. J'aurais rêvé pouvoir le faire en France. Et j'aurais pu être anglais, j'aurais pu être allemand. Non, je suis d'origine marocaine, mais française. J'imagine qu'il y a plein de jeunes acteurs maghrébins ou de confession arabe, tu vois, qui ont pris Omar Sharif en référence. Il fallait que ça tombe sur moi aussi, ça c'était fascinant. On a fait ce film a eu un gros succès. Et puis, genre 5-6 ans après, il m'a remis la pyramide d'or au Caire pour ma carrière. Genre, j'ai un peu jeune pour un truc de carrière, mais c'était une façon de dire sur scène, voilà, Saïd, c'est mon ami.
C'est quand même conte de fées, hein, votre ami. Ouais.
Et il dit sur scène que je vais être son héritier, tout ça.
Il n'y a pas à me répondre, mais pas de soucis.
Non, conte de fées.
C'est conte de fées, quand même.
Conte de fées, bien sûr. Conte de fées, mais je dois quand même ici souligner que c'est un conte de fées éveillé. C'était du travail. et c'est encore du travail. Mais c'est un conte de fées, j'ai envie de dire presque de fées divers, quoi. De fées.
C'est joli.
Et c'est pas non plus un conte de fées destiné. C'est-à-dire, bien sûr qu'il y a une forme de destinée, mais j'étais là trappé avec mes mains et je me suis assis et j'ai travaillé, j'ai pris des décisions précises. C'est pas genre une ligne droite, quoi. C'est plus compliqué que ça. Alors oui, de l'extérieur, ça paraît conte de fées parce qu'il y a la réussite, parce qu'on est plutôt de bonne constitution, tu vois, on n'est pas drogué. Enfin, j'ai vu des gens dans ce métier finir dans des états incroyables. C'est un métier très dangereux. Très très dangereux. Donc c'est ça, c'est un conte de fées dans ce sens-là. C'est qu'on s'en sort pas trop mal.
Est-ce que vous connaissez l'émission en sol majeur, Saïd Tagmaoui?
Non.
Voilà. Bienvenue, vous êtes dans l'émission en sol majeur qui parle du lien au sol de la terre natale, d'accueil et d'adoption. On a une dernière question pour vous.
Quel est votre sol majeur?
C'est une note, un sol majeur, non? C'est comme une note de musique.
Je vous ai expliqué le cahier des charges de l'émission il y a 10 secondes.
Un sol majeur. J'ai envie de dire partout où je me sens bien, quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'à travers le métier que je fais, j'ai été donné de voyager beaucoup dans le monde et dans des endroits vraiment improbables. Au fin fond de la Chine, des trucs incroyables, incroyables mais vrais. Et tu t'aperçois que tout le monde est... Tu le retrouves aussi même dans le cinéma. Tu as des équipes américaines, italiennes, espagnoles, françaises. Et à chaque corps de métier, c'est-à-dire celui qui fait la musique, ou celui qui fait le son, ou celui qui fait la caméra ou la lumière, ils se ressemblent, les gens. Un chef opérateur français de lumière ressemble à un chef opérateur américain. Ils ne se connaissent pas. Mais comme ils font le même métier, il y a une espèce d'inconscient qui est un peu le même. Ils sont presque habillés de la même façon. Ils ont même la même sensibilité. Et tu t'aperçois que, pour revenir à ce truc de sol majeur, qu'il y a des grandes lignes comme ça, comme des routes migratoires. Et ben c'est presque pareil avec les êtres humains. Et j'ai envie de dire que le sol majeur, c'est l'humanité, quoi. C'est de trouver des gens même diamétralement opposés à toi, dans des cultures opposées à la tienne. Mais il y a un lien humain qui fait que t'as envie de la même chose, c'est-à-dire d'embrasser les gens que t'aimes, protéger, avancer, nourrir. Tu vois, ces choses qui font qu'on est une grande famille d'humanité, même si c'est une famille recomposée.
Oui. Il y a quelques guillemets ici et là.
Il y a quelques guillemets.
Ouais. J'aimerais bien qu'on dise un dernier mot sur cet endroit de la planète où vous êtes beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire Los Angeles, que vous décrivez sans filtre dans cette autobiographie. Vous écrivez « Alors heureux, Saïd ?» Pas le moins du monde, il ne me faut pas longtemps pour comprendre que je vis en enfer, au royaume de la superficialité tous azimuts, dans le temple du kitsch, où se promener un livre à la main est aussi suspect que de porter des lunettes de soleil en plein brouillard. J'ai atterri dans la ville du vide intergalactique où tout n'est qu'apparence, frime, vulgarité.
Et encore, vous êtes gentil, le chapitre continue un peu plus. Écoutez, mon rêve c'était de réaliser un documentaire sur Los Angeles, et je le ferai un jour, ça s'appellerait l'hologramme. C'est presque un hologramme, quoi. Et effectivement, c'est une salade de fruits, quoi. C'est un rond-point de folie, de frustration, de surenchère, de bêtises, d'ignorance, de talent. C'est tout un bordel, quoi.
Vivre à Los Angeles, c'est le prix de la réussite cinématographique.
Vivre et mourir à Los Angeles, il y avait un film.
C'est dans vos projets?
Non, c'est pas le prix de la réussite, mais c'est le sacrifice à faire si tu veux que ça prenne une forme. Après, très vite, tu peux te détacher comme je suis en train de faire maintenant et vivre au Maroc, à droite, à gauche, en gardant ta base. J'ai quand même ma maison là-bas, j'ai mes papiers là-bas, j'ai mon compte en banque là-bas, j'ai mes voitures là-bas. Enfin, c'est tout un bordel, quoi.
Vous êtes américain, hein?
Je suis américain. Ouais.
Et français?
Aussi américain.
Et marocain?
Marocain, français, américain, et même ivoirien.
Ouais. Pourquoi ivoirien?
Parce que je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire avec des gens et ils m'ont apprécié et je les ai appréciés. Et pour me remercier de tout ça, ils m'ont offert la nationalité ivoirienne.
Waouh!
Ouais.
Qu'en pense Léo, votre petit chien?
Lui, il n'est pas encore ivoirien. Lui,
personne n'est parfait.
Il est humain, quoi. Il est sur la planète Terre.
Il est humain.
Mais oui, donc c'est pas simple tout ça, mais ça se compose et avec le temps. Et puis j'ai fait beaucoup de sacrifices aussi. Hein. J'ai pas de femme, pas d'enfant, pas de copine.
Vous le regrettez, ça?
Non, je regrette pas parce que j'étais pas prêt, etc. Je crois que dans le livre, j'en parle. J'ai fait une vraie introspection par rapport à cela et je suis assez honnête. Il y a des fois où t'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Mais il faut être honnête par rapport à ça.
L'horloge nous indique que vous n'avez que 47 ans, Saïd Tagmaoui, donc bon vent. La France, si tu nous entends, on n'a pas le temps d'évoquer ni la boxe, ni Céline que vous adorez. Il faut vous lire.
C'est un tout en fait, il y a beaucoup de choses. En un mot, pour finir, c'est comment on construit, le vrai débat, et sera le thème de mon prochain livre, c'est comment on construit le « nous » au pluriel.
La France, si tu nous entends, Saïd Tagmaoui publie « Au Cherche Midi », un livre qu'en sol majeur recommande, « De la haine à Hollywood ». Et parce que vous êtes plutôt très blues, hein, musicalement, magnifique programme, vous nous faites la grâce d'un « Hanging Tree » d'Elijah Black pour refermer cet en sol majeur. Bonne route, Saïd.
Merci à vous, Yasmine.
Mais restez dans le coin. Dans le coin.
C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.
Underneath the hanging tree, he looks just like me. So tell me, am I really free? Could have been my mother crying for my brother. And everybody, everybody, everybody's praying for peace. But who's gonna protect us from the police? Keep these chains off me, 'cause I don't wanna be another seed underneath the hanging tree. Pray for me, Lord, don't let me be another seed underneath the hanging tree. Designers that don't give a damn about you. I wonder sometimes, am I just living to die?
En sol majeur à réécouter en podcast sur votre application préférée, Pure Radio éventuellement, à retrouver sur nos réseaux sociaux et puis derrière votre poste, chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, le trio vous espère, ça c'est pour Léo, hein. La semaine prochaine avec Gada Hatem.
Tout à l'heure sur RFI.